Chapitre 26. Malheur, demanda le sourcier. Où Anis Arc travaillait-il la plupart du temps? Selon toi, il passait beaucoup de temps ici, pour y faire quoi? Le vieil homme haussa les épaules.
Je n'étais pas dans le secret, seigneur Ral. L'évêque ne parlait pas de ses plans avec un vulgaire scribe. Cela dit, je sais qu'il aimait étudier de très anciens textes. En tout cas, c'est ce que je le voyais faire. J'arrivais très tôt pour recopier les prophéties bien avant qu'il se montre. En revanche, il restait souvent après mon départ, parfois toute la nuit.
Moller désigna un grand bureau non loin du secteur des piédestaux. Dans un désordre total, on distinguait des ossements sculptés, des bougies, des règles, des compas et plusieurs piles de documents et de rouleaux de parchemin. Sur un tas de ce qui semblait être des grands livres comptables, une grosse chandelle trônait dans un bougeoir en argent. À voir les coulées de cire sur les livres, ils avaient simplement dû servir de support afin de mieux éclairer le plan de travail.
Parfois, Anis Arc venait lire des prophéties récentes dans un grimoire. Je suppose qu'il le faisait aussi en mon absence, mais je ne pourrais pas le jurer, bien entendu. Il n'était jamais très concentré à ces moments-là. Il survolait les textes, rien de plus, sans doute avec l'intention d'y revenir plus tard. Parfois, il aimait jouer au Chaturanga contre moi. Vous voyez, il y a un plateau de jeu sur cette table. Mais le plus souvent, il restait assis à son bureau.
Richard vint se placer derrière le grand meuble et remarqua que le piédestal le plus proche supportait le livre qui, selon Moller, traitait exclusivement de la maison Ral. Au-delà, Anis Arc avait une vue parfaite sur l'ours empaillé qui semblait dominer et menacer le grimoire. Un symbole que l'évêque avait dû apprécier. En tout cas, vu de derrière le bureau, la configuration de la salle semblait prendre un certain sens. Anis Arc paraissait très attaché au symbole. Les recueils de prophéties n'étaient pas seulement grands par la taille, mais aussi parce qu'ils contenaient des dizaines de milliers de pages. La simple idée de les étudier pour reconstituer le cheminement intellectuel de l'évêque donnait le tournis. Quant à y trouver un moyen de le vaincre, vrai ou fausse, les prophéties étaient toujours un casse-tête, alors quand il y en avait autant. Mais Richard aurait juré qu'Anis Arc ne s'était jamais vraiment intéressé à ses prédictions. Baissant les yeux sur le bureau, il saisit un antique rouleau et le déroula. Le parchemin était taché aux quatre coins par la cire des bougeoirs qui avaient dû servir à le garder déployé. Quand il lut le texte, Richard n'en crut pas ses yeux.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Nietzsche, le voyant stupéfié.
« Qu'as-tu vu ?»
Richard ne put pas détourner le regard des lignes de symboles interconnectées typiques du langage de la création. Quand Nietzsche et Callan lui rejoint, il s'écarta un peu pour qu'elle puisse voir par elle-même.
« C'est le langage de la création qu'utilise Regula, » dit l'inquisitrice. « La machine à présage s'exprime ainsi. »
Richard acquiesça tout en s'attelant à la traduction. Les messages de Najamun dans les grottes de Stroiza étaient également rédigés dans ce langage.
Ce texte daterait donc de l'époque des Grandes Guerres, quand Nadja et Soulakan étaient vivants ?
Demanda Callan en se penchant pour mieux voir.
Que dit-il, Richard ?
Sans répondre, le sourcier se redressa et se tourna vers Moller.
Y a-t-il d'autres parchemins de ce genre, rédigés dans le même langage ?
Le scribe tendit le cou pour voir le texte qu'il parut reconnaître.
Oui, il y en a d'autres. Par exemple, dans cette pile, le plus sombre du lot. L'évêque Arc les appelait des manuscrits soléiens.
Des manuscrits soléiens ? Tu en es sûr ?
Oui, c'est ça. Il était capable de les déchiffrer, moi non. Il passait beaucoup de temps à les étudier. Dès qu'il en recevait un nouveau, il s'y consacrait pendant des semaines, mais ça n'arrivait pas souvent et il était très jaloux de ses trésors. Il y a des années, il lisait très attentivement les nouvelles prophéties que j'archivais, mais au fil du temps, il s'est simplement contenté de les consulter rapidement. Peu à peu, il s'est détourné des grimoires pour se concentrer sur les rouleaux de parchemin. Sur les manuscrits soléiens, il faisait très souvent des mesures avec ses règles et ses compas. Quand il travaillait très tard dans la nuit, il laissait tout sur son bureau. Le matin, je mettais un peu d'ordre, mais c'était mon seul rapport avec ces textes.
Savez-vous ce que veut dire le mot « soleilien » demanda Callan.
Moller secoua la tête.
Non, il appelait ainsi les manuscrits, un nom que l'abbé Dreyer connaissait aussi, mais il ne m'a jamais dit ce que ça signifiait.
C'est un très ancien mot, dit Richard. On peut le traduire par « céleste ».«
Céleste ?» répéta Nietzsche, perplexe.
Richard acquiesça distraitement car il songeait à tout ce qu'il venait de voir dans le fief d'Anis Arc. Un endroit plein d'artefacts anciens, la plupart collectés par les ancêtres de l'évêque. Et en ce lieu consacré aux prophéties, ce même évêque n'avait même pas pris la peine d'ouvrir les prédictions qu'on lui envoyait. Vu le peu d'intérêt qu'il accordait au travail de Moller, on pouvait déduire que les prophéties étaient le cadet de ses soucis. Sauf s'il savait que le flot de prédictions qui arrivait à la citadelle n'était que du matériel sans intérêt, du toc en quelque sorte. Les manuscrits soleillens en revanche le fascinaient. De quoi se demander si sa quête des prophéties n'était pas un prétexte pour envoyer des gens chercher des rouleaux de parchemin ou des livres rédigés dans le langage de la création. Après tout, les terres noires semblaient prodigues en histoire remontant à l'époque des Grandes Guerres. Par exemple, les parois des grottes de Stroiza étaient couvertes d'informations sur ce temps-là.
« Parfois, » dit Moller, « quand j'arrivais le matin, Anis Arc était encore là, penché sur un de ses manuscrits soleillens. À ces moments-là, je remarquais qu'il arborait de nouveaux tatouages. Comme il détestait que je m'adresse à lui sans qu'il m'ait d'abord interrogé, je ne lui ai jamais posé de questions là-dessus. » Mais quand nous jouions au Chaturanga, je n'aimais pas regarder ces symboles terrifiants. »
Repoussant en arrière une mèche de cheveux blonds, Nietzsche se pencha pour mieux étudier le rouleau de parchemin.
« Il était bon à ce jeu de stratégie ? » demanda-t-elle.
« Oui, c'était un maître. »
« Si j'ai bien compris, » intervint Richard, « il y a d'autres rouleaux soleillens, en plus de ces deux-là. »
Moller sembla surpris que le seigneur Hall s'intéresse à ce point de vieux texte.
« C'est exact. Certains sont rédigés dans des langages un peu différents, mais quand même très proches. »
Le vieil homme désigna une armoire.
« Je vais vous montrer, seigneur Hall. »
Moller traversa la salle, slalomant entre les castors empaillés et la statue d'une femme dont la robe transparente laissait bien peu de place à l'imagination. De son bureau, nota Richard, Anis Arc n'aurait pas pu voir très bien la statue. En revanche, il avait une vue parfaitement dégagée sur les castors, occupés pour l'éternité à ronger des troncs d'arbres pour en faire les éléments d'un barrage, tout ça pour contrôler les flots d'un cours d'eau. Quand il eut atteint l'armoire, Moller l'ouvrit pour révéler tout un rayonnage garni de rouleaux de parchemin. Tous semblaient aussi anciens que les deux découverts sur le bureau, et certains encore plus vieux s'effritaient aux extrémités. D'un coup d'œil, Richard estima qu'il devait y avoir une centaine de rouleaux dans cette armoire. Il s'empara d'un des manuscrits et le déroula délicatement. Le texte commençait par des angles d'azimut qui ne lui dit rien. Des données célestes, supposa-t-il, censées indiquer la position des étoiles? Même s'il n'en aurait pas mis sa tête à couper, le sourcier supposa qu'il s'agissait d'un moyen d'établir une chronologie, l'élément crucial qui manquait aux prophéties. Vu ainsi, ces rouleaux faisaient passer les prédictions classiques pour des plaisanteries de charlatans. En tout cas, ils témoignaient de l'existence d'une technique très sophistiquée mais tombée dans l'oubli au fil du temps. Juste après les angles d'azimut, Richard vit des symboles qui parlaient de prophéties mais qui n'en étaient pas. En revanche, ils évoquaient les prédictions comme si elles avaient été des créatures vivantes. D'une étrange façon, ces symboles révélaient les prophéties, mais en adoptant une approche oblique, car il se servait d'elle pour développer et expliquer le sujet principal du rouleau, lequel pour l'instant échappait encore à Richard car il y avait plusieurs possibilités. Dans le langage de la création, chaque symbole était en fait un concept entier, l'équivalent de toute une phrase dans une autre langue, et non un simple mot. Dans ces conditions, comprendre et traduire un texte si long demanderait beaucoup de temps. Richard tendit le parchemin à Nietzsche et en prit un autre qu'il déroula entre ses mains. Celui-là aussi était rédigé avec des symboles, mais pas dans le langage de la création, encore qu'il y ait beaucoup de similitudes. La structure était la même, mais en plus primitif et mystérieux et dans un style pourtant moins précieux.
Avec un frisson, Richard comprit qu'il s'agissait d'un langage antérieur à la forme orthodoxe du langage de la création. Antérieur. Un coup d'œil rapide lui apprit qu'il serait capable de comprendre le sens général du texte, même si certains détails resteraient hors de sa portée. Les symboles parlaient aussi des prophéties, mais d'une manière différente. Le front plissé, Richard s'efforça de les déchiffrer.
« Regarde !»
lança Nietzsche en désignant un symbole sur le parchemin de Richard.
« N'est-ce pas la représentation de Regula ?»«
Bien sûr que si !» Richard s'empressa de lire ce que le texte disait sur la machine à présage. Au premier abord, ça n'avait pas beaucoup de sens. De plus, un vague sentiment d'inquiétude brouillait la réflexion du sorcier.
« Tu as vu cette formule ?»
lança Nietzsche. Richard étudia la ligne.
« Je n'ai jamais rien contemplé de tel. On dirait que ça parle de la mort, mais je n'en comprends pas plus. »«
Je reconnais cet ensemble spécifique d'expressions, »
dit Nietzsche.
« Les sœurs de l'obscurité l'utilisaient. Tu sais qu'elle devait frayer avec le royaume des morts. Cette partie du texte en parle précisément. »
Tu as raison, oui. Il est question de bannissement.
Bannissement dans le royaume des morts ?
Demanda Callan en jetant un coup d'œil au parchemin.
Comme lorsque le temple des vents a été exilé chez le gardien ?
Non, répondit Richard, un frisson glacé courant dans tout son corps. Il s'agit de bannissement du royaume des morts.
Être banni du royaume des morts ? S'étonna Callan. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?
« Je n'en sais rien, » avoua Richard. Il enroula le parchemin et entreprit d'en sortir d'autres du rayonnage, les calant dans le creux de son bras.
« Aidez-moi à les porter sur le bureau. »«
Combien en veux-tu ? »
demanda Nietzsche.
« Il me les faut tous. »«
Tous ? »
s'étonna Callan.
« Oui, c'est ça que nous sommes venus chercher. Les grimoires ne contiennent rien d'important. Les manuscrits soleiliens, en revanche, c'est grâce à eux qu'Anis Arc a ramené sous la canne dans le monde des vivants. »
« Tu en es sûr ?»
demanda l'inquisitrice. Richard brandit un des rouleaux.
« Pourquoi crois-tu que l'évêque est couvert de tatouages ?
C'est lié à ces textes, pas aux prophéties. Car ils contiennent des éléments et des symboles en rapport avec la magie noire, et Regula y est mentionné. Tout ça forme un tout cohérent. Il faut que je traduise ces rouleaux pour comprendre ce que c'est Anis Arc et comment il agit. « Richard, » souffla Callan, « nous n'aurons pas le temps. »
Le sorcier cessa de sortir des rouleaux et se tourna vers sa femme.
« Que veux-tu dire ?»«
La souillure qui te ronge, il faut qu'on t'en débarrasse. Sinon tu mourras avant d'avoir pu utiliser tout ça pour vaincre Anis Arc et Soulacane. Il faut d'abord te soigner. »
Richard recommença sa moisson de rouleaux.
« Nous n'arriverons pas à temps au palais du peuple. C'est trop loin, je te l'ai déjà dit.
Mais il y a peut-être un autre moyen. Ces textes nous aideront sans doute à résoudre le problème d'une manière différente. »
Tandis qu'il s'affairait à sortir des rouleaux, Richard vit Callan et Nietzsche échanger un regard. Elles étaient inquiètes et ça pouvait se comprendre, mais il lui restait peu de temps avant que la souillure l'empêche de réfléchir clairement, et peu après, elle le tuerait. Arriver au palais du peuple avant Soulacane serait impossible, il le savait, et si le haut plateau était encerclé, il ne serait pas question de passer. Chargé de rouleaux, il gagna le bureau et les deux femmes le suivirent, chacune avec sa cargaison. La priorité était de savoir comment Anis Arc avait fait retraverser le voile à Soulacane. En principe, c'était impossible, car les morts avaient pour vocation de rester morts, et la réponse à cette question était la clé de tout. Même dans des circonstances tout à fait hors du commun, Callan et lui n'auraient pas dû pouvoir revenir du royaume des morts. Pourtant, ils l'avaient fait. À première vue, ça pouvait avoir un sens, mais en creusant un peu, ça devenait incompréhensible. Sauf si c'était lié d'une façon ou d'une autre avec tout ce qui concernait Anis Arc et l'empereur Soulacane. Un jour, Adi, la dame des ossements, lui avait dit que les skrines étaient en fait une force qui appartenait au voile séparant la vie de la mort. Une force qui montait la garde dans les deux directions pour interdire toute communication entre le royaume des morts et le monde des vivants, sauf lorsque quelqu'un décédait, bien entendu. Les skrines empêchaient donc les esprits exilés dans le royaume des morts de traverser le voile dans l'autre sens. Alors, comment Soulacane avait-il fait ? Tout dépendait de la réponse à cette question.